Attention, l'œuvre que vous allez entendre est immorale et peut choquer les personnes de tout âge. Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Tire! Parce qu'il voit que Frédéric veut défendre Gilles. Frédéric, en tombant, fonce sur lui et le fait tomber à terre en fonçant sur ses jambes. Gilles se relève. Il les voit tous les deux se battre. Il dit « Laisse-le !» Laisse-le ! Ils se relèvent tous les deux, Gilles dit. Et puis quoi ? Je ne vous comprends pas. Vous aussi, vous êtes un surhomme. Et vous devez comprendre que rien ne peut nous arrêter. C'est vous qui nous l'avez dit. Alors, vous êtes tout aussi coupable que moi. Lydie, effondrée, lui dit « J'allais me foutre le camp. Autrement, je me tue. » Gilles et Frédéric remontent dans la voiture. Lydie crie à Gilles « Il est inhumain d'être un surhomme. Je me suis trompé. » Gilles lui dit « Oui, tu as raison. Tu n'es pas un surhomme, parce qu'un surhomme ne s'occupe pas de ce qui est bon ou mauvais. Vous êtes un minus. » Lydie furieux prend son fusil et tire dans la serrure de la portière, qui saute et dit à Gilles, sors d'ici, tu vas voir si je suis un minus. Gilles, la tête froide, sort de voiture. Frédéric ne bouge pas. Didier tire entre les jambes. Gilles lui dit, c'est simple, avec une arme. Didier, lâche l'arme. J'ai lui crié. Cours-moi après, Minus. Et il se met à courir. Didier furieux, il court après. Il veut le tuer, ce salopard. C'est orgueilleux. J'ai lui crié. Ce qui est arrivé à ta sœur, c'est bien fait pour elle. C'est elle qui m'a allumé. Et c'est parce que moi, je n'ai pas voulu qu'elle est morte. Voilà. Et il court de plus en plus belle. Il est furieux. Fonce sur lui. Elle fait tomber à terre. Il se roule dans la terre. Gilles rit de voir la fureur de Didier. Il est sur lui. Gilles lui dit, tu vois, tu ne peux plus me faire de la morale, salaud. Tu n'es qu'un minus, pauvre type. Gilles lui dit, tue-moi, je m'en moque. Gilles fait le geste de l'étranger, de l'étrangler. Et il sort. Il voit que Gilles ne réagit pas. Il ne bouge pas, ne cherche pas à se défendre. Alors, il le lâche et lui dit, tu vas t'en aller, je ne veux plus te voir. Il se redresse, Gilles se lève, Didier le prend par le bras, tu vas me foutre le camp, allez. Il le mène à la voiture, le fait entrer dans la voiture, prend son fusil et tire. Le portail qui s'est ouvert. Gilles met la voiture en route. Martin accourt vers son maître et lui demande « Que se passe-t-il, monsieur ?» Didier lui dit « Appelez la police et nous dirons ce que nous savons. »« Quoi, monsieur ?»« Rien. » Frédéric lui demande, que faisons-nous maintenant, Gilles ? Je lui dis, nous allons rentrer, les vacances sont finies. Dis donc, toi, tu as été bien sage, c'est moi qui ai tout fait, et j'ai failli me faire tuer sans que tu réagisses. Frédéric est penaud, il lui dit, je savais quoi faire ? Je lui dis, bien sûr, tu es encore trop humain et bon. T'es trop attaché à eux. Tu es lâche à cause de ta bonté. Attention, un surhomme n'est pas bon. Frédéric lui dit, je tâcherai de faire attention. Il roule pendant un bon moment. Et Frédéric dit en regardant sur la carte, mais c'est pas la route. Je lui dis, je sais, j'ai voulu faire un petit détour comme ça. Ça te gêne? Non, pas du tout. On est en Haute-Savoie ici. Oui, il me semble. Le paysage est joli, non? Ils arrivent où à droite de la route se trouve en contrebas, au pied d'une montagne, un grand lac. Et au pied du lac, en bas, côté route, se trouve un chalet-hôtel. Il y a un petit chemin qui mène à l'hôtel. J'ai dit à Frédéric, c'est bien là, non? Frédéric lui dit, oui, c'est très joli ce lac. J'ai lui dit, et si on s'arrêtait ici, on se reposerait? On repartirait demain matin? Frédéric lui dit, oui, mais tranquille, pas d'histoire. J'ai lui dit, je te le promets. Mais j'ai, pour ce qui est de la fille, je n'y étais pour rien. Frédéric lui dit, oui, elle était trop humaine, et toi, trop beau gosse. Allez, allons à cet hôtel. Et Gilles roule jusqu'à l'hôtel. Il va garer la voiture près de l'hôtel. L'hôtel est un chalet de un étage. Assez grand. Au rez-de-chaussée, il y a de grandes baies vitrées qui donnent à salle à manger. Le lac semble grand. Il y a un chemin qui fait le tour. C'est boisé. La montagne aussi a des sapins. Se déverse dans le lac une cascade qui vient du haut de la montagne. Le décor est magnifique. Ils sortent de voiture. Un petit vent frais les surprenne. Mais ce n'est que la fraîcheur de l'altitude. Dans l'hôtel. Petit hall d'entrée meublé à la montagnarde. À droite, la banque du concierge. Plus loin, les escaliers de bois pour aller aux chambres. En face de la banque, la porte vitrée qui donne à la salle à manger. Une femme est à la banque. Elle est grande, mince, distinguée, habillée d'une robe de laine collante, marron clair. Elle est chantin. On ne la voit pas très bien. Elle demande aux jeunes gens, « Vous désirez ?» Ils vont vers la banque. Gilles lui dit, « Bonjour madame, nous aimerions ces deux chambres, s'il vous plaît. » Elle lui dit, « Il me reste deux chambres. En ce moment, nous sommes en morte saison. Je vais faire quelques petits travaux. » Elle prend des clés qui est sur le tableau et leur dit, « Si vous désirez me suivre, » et ils la suivent. Il n'y a pas d'ascenseur. Et les chambres sont au premier étage. Arrivés au premier étage, ils suivent un couloir sombre et décoré campagnard. Elle ouvre une porte. Voilà la première chambre. Ils entrent. Gilles dit, et pour toi Frédéric si tu veux, merci. Ils sortent de la chambre. Elle va ouvrir une deuxième chambre. La deuxième chambre est communicante à l'autre. Meublé, comme dans un chalet, un lit à une place, table de nuit, armoire à deux portes, et une table basse ronde avec deux chaises. La pièce est vaste, propre. Elle demande à Frédéric, Cela vous convient-il ? Oui, merci. Et ils sortent de la pièce. Puis, elle monte la deuxième chambre. Celle-là est la même que l'autre. Il y a même, comme je l'ai dit tout à l'heure, une porte communicante. Elle dit avant de partir, « La salle de bain est dans le couloir, la porte en face de vos chambres. J'espère que ça ne vous gêne pas. Que voulez-vous ? Nous sommes en travaux et c'est la morte saison. » J'ai lui dit, « C'est très bien. » Frédéric demande, « Où sommes-nous ? » Elle lui répond, « Au lac de Montrion. Vous ne le saviez pas ? Pourtant, le lac est très connu. Il y a eu des tas de personnalités qui sont venues. » Gilles fait, « Ah ? Lesquelles ?» Elle dit, « Jean-Pierre Junier, Marc Girardon, Diappe, les Francs-Blancs et beaucoup d'autres. Le lac est connu mondialement. Il est mystique. » Gilles lui dit, « Je ne savais pas. » Elle lui fait, « Et vous, qui êtes-vous ? » Il lui dit, « Moi, je suis Gilles Traîne. » Et mon ami, c'est Frédéric Bosch. Elle lui fait, vous êtes le type de personnage qu'il aime. Je suis sûr que vous faites partie de son écurie. Mais quelle écurie ? Elle lui dit, c'est une façon de parler. L'auteur qui écrit les histoires sur le lac aime les gens comme vous. Il lui demande, et quel est cet auteur ? Elle lui fait, ah, ça ! Allez, il faut que je vous laisse. N'oubliez pas le petit déjeuner dans la chambre, les autres pas dans la salle à manger. Déjeuner 12h45 et dîner 21h. Cela vous va-t-il ? Gilles lui dit, très bien madame. Et elle s'éloigne. Frédéric dit à Gilles, bon eh bien, je vais ranger mes affaires, me reposer un peu. Nous revoyons dans une heure en bas ? Gilles lui fait, oui. Et chacun entre dans sa chambre. Frédéric sort de sa chambre, habillé, en pleine forme. Il est habillé d'un pantalon marron en velours, pull marron et de bonnes chaussures. Il descend retrouver Gilles, qui retrouve à l'accueil qu'il attendait, habillé en pull et pantalon marine. Frédéric lui demande, « Qu'est-ce qu'on fait ?» Gilles lui dit, « Nous allons faire un tour, le tour du lac ?» Et ils sortent. Il fait très beau. Le ciel est bleu. La fraîcheur qui les avait surpris au début, en arrivant, ne s'aperçoit plus. Ils suivent le lac en prenant un petit chemin qui longe le lac. Le lac est très beau. Rayon du soleil se reflète dans l'eau. La montagne qui est à ses pieds, une montagne pleine de sapins, seule au sommet il y a des rochers. La cascade qui se déverse dans le lac, tout est beau. Il y a quelques promeneurs. Ils passent devant des troncs d'arbres à terre, sur le côté du chemin. Dessus se trouvent deux hommes. Ils sont assis, un grand même à lunettes et un plus petit à lunettes aussi. Ils sont tous les deux bruns, mais le petit a les cheveux qui ondulent. Le grand maigre est habillé en montagnard, velours marron, le petit en tenue légère d'été, pantalon beige et chemise blanche. Lorsque Gilles passe devant eux, ça lui fait un drôle d'effet. Vous avez une cigarette ? Frédéric sursaute et se retourne. C'est le grand maigre qui a parlé. Frédéric lui dit, non, je ne fume pas. Ou tu dis, moi non plus. Mais demander une cigarette, c'est bien pour engager la conversation. Frédéric lui dit, et si je vous en avais donné une, j'aurais mis dans ma poche. Vous êtes de loin ? Je lui dis, de Paris, et vous ? Moi, de Lyon, enfin. Et lui est de Villeurbanne. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici ? Je lui dis, comme ça, pour se reposer. Le petit dit, ah, ça, pour se reposer, on se repose. L'autre lui dit, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, Marc ? Marc dit, rien. Le mec dit, monsieur fait la tête parce qu'on n'a pas pu se suicider. Marc lui dit, eh oui, tout ça, c'est de ta faute. L'homme lui dit, non, c'est de la tienne. Tu n'as fait que de parler de ça. Alors bien sûr, à force de parler, on ne fait plus rien. Marc lui dit, cherche toujours quelque chose de bien. Non. L'autre lui dit, tu avais pourtant trouvé le train, le TGV. Marc lui dit, oui, j'étais prêt à le faire, mais toi non. L'autre lui dit, et pourquoi ? T'es-tu pas suicidé ? Hein ? Pourquoi n'as-tu pas fait ? Pourquoi t'es-tu pas suicidé seul ? Moi, si je ne l'ai pas fait, c'est parce que toi aussi, tu ne l'as pas fait. Et puis, tu es incapable de le faire. Tu parles et c'est tout. Marc lui dit, moi, je ne suis pas un lâche. Et je ne pose pas. Je ne passe pas mes journées à ne rien faire. Mais tu dis, moi, rien faire avec tout ce que je fais. Et que fais-tu ? Le cul répond, je travaille, moi. Tu parles de faire quelque chose. Travailler, c'est important. Et puis j'écris. Et ça, c'est travailler. Marc lui dit, et c'est pour ça que tu restes enfermé chez toi des jours et des jours. Eh bien, oui. Et puis pour moi, voyager, c'est comme ça. C'est écrire des histoires. Créer des personnages. Marc lui fait, tu parles. L'autre lui dit, ce que j'écris, pour moi, c'est très important. Et puis les personnages que j'ai créés sont vivants pour moi. Toi aussi, t'es un de mes personnages. Monsieur de Haute-Bord, Pontois, Diable. Et il regarde Gilles et Frédéric et leur dit, comme vous. Gilles Fourieux lui dit, moi, je ne suis pas un personnage, moi. Si, vous en êtes un, et un drôle de personnage. Vous revivez ce que j'ai déjà vécu d'autres personnages, mais en plus dur. S'il lui dit, vous êtes complètement taré. Non, pas du tout, et je connais votre fin. Frédéric lui demande, quelle fin allons-nous avoir alors ? S'il lui dit, laisse, il est fou. L'homme lui dit, non, je ne suis pas fou. Le lac est mystique et il va se passer quelque chose que vous ne verrez pas et qui va bouleverser le monde. Oui, ici, dans ce lac, je viendrai une nuit d'hiver glaciale. Le lac sera glacé et je ferai le geste qui mettra le monde dans l'obscurité la plus complète, la fin des temps. S'il lui dit, vous faites partie du secte ? Non. Qui êtes-vous ? Je suis celui qui est. Et je suis dans tout et de partout. Et lorsque je ferai ce geste, je le ferai dans le corps de Monsieur Changu. S'il lui dit, quel nom stupide ! Et vous avez dit que nous ne serons pas là pour y voir. Où serons-nous ? L'homme lui dit, je vois pour vous et votre ami. Une fin. Arrête ! Dit Marc. S'il lui demande, pourquoi lui avoir dit d'arrêter, Marc Cucu? Vous ne devez pas le savoir. Et puis, les choses peuvent se passer différemment. Il y a deux vies. Celle qui continue l'histoire des Francs Blancs et celle qui mène à vous. Puis après, les deux voies se rejoignent pour avoir eu la même fin. Mais avant que les deux voies se rejoignent, il y aura, c'est sûr, la fin de certains. Parce que l'on ne peut pas avoir plusieurs héros en même temps. J'ai dit à Frédéric, viens, on s'en va. Ils sont complètement tarés, ces deux-là. Frédéric lui dit, je ne trouve pas. J'ai lui dit, alors reste. Non, je rentre avec toi. Et laisse ces deux hommes. D'ailleurs, le soir commence à tomber. Il décide de rentrer. Arrivé au chalet, comme le dîner est à 21h, ils commandent un thé complet dans leur chambre. Le soir, en dînant dans la salle à manger, à une table près de la fenêtre qui montre le lac, Frédéric dit en mangeant une tarte. Ça va me faire tout drôle de rentrer, j'ai lui dit. On ne peut pas rester indéfiniment comme ça. Et puis à Paris, il y a aussi à faire, non? Et après une nuit calme, le lendemain matin, ils ont payé la note et sont partis directement pour Paris. Le voyage se passe bien, sans incident. Ils arrivent à Paris en fin d'après-midi. Gilles raccompagne Frédéric jusqu'à chez lui. Frédéric lui demande, tu m'accompagnes? Gilles lui dit, non, vaut mieux pas, ton grand-père avoir besoin de te voir seul. Frédéric lui dit, mais non, tu sais bien qu'il t'aime bien. Allez, viens. On va sûrement t'inviter à dîner. Gilles soupire et sort de voiture. Il suit son ami. Frédéric sonne à l'interphone. Oui, c'est moi. Oh, monsieur, vous pouvez entrer. Elle déclique la porte d'entrée. Les deux garçons entrent dans l'allée. Et ils vont prendre l'ascenseur. Sortent de l'ascenseur. Frédéric va sonner à la porte. Il a ouvert le domestique. Bonjour monsieur. Bonjour. Ils entrent. Le domestique ferme la porte. Frédéric demande, où sont-ils? Au salon monsieur, comme d'habitude. Il dit à Gilles, viens, on y va. Et ils y vont. Frédéric frappe à la porte. Entrez. Ils entrent. Ils sont au salon. Les grands-parents sont assis. Lorsqu'ils les voient, ils se lèvent et vont à eux. Le grand-père demande « Vous avez passé de bonnes vacances ?» J'ai lui dit « Oui, formidable. Une vraie vie de château. »« Ah, vous êtes allé où ?» Frédéric regarde Gilles. J'ai lui dit « Nous sommes allés en montagne. C'était formidable. Les gens typiques, tout quoi. Il y avait même une de ses filles, du tonnerre. » Grand-père lui dit « Vous avez dû avoir du succès. »« Oh oui alors ?» Frédéric demande. Et ici, Auguste lui dit, ton frère est tombé malade, une grande fatigue. Et disons qu'il s'ennuie de toi. Frédéric lui dit, eh bien moi pas de lui. Amélie lui dit, n'est pas gentil de dire ça de ton frère. Frédéric hausse les épaules. Gilles lui dit, je vois que la vie va reprendre pour toi. Amélie lui demande, vous voulez boire quelque chose? Frédéric lui dit, oui, le voyage était un peu fatigant. Ils vont s'asseoir autour d'une table basse. Elle demande, qu'est-ce que vous voulez boire? Gilles lui dit, ananas. Frédéric dit, jus de tomate. Auguste dit à Gilles, vous avez bonne mine. On voit que vous êtes sorti souvent. Gilles lui dit, oui, je partais tous les jours me promener dans les alpages. Et toi, Frédéric? Frédéric lui dit, moi, je sortais un peu moins parce que j'avais à étudier, mais j'ai souvent fait du cheval. Amélie lui demande, vous étiez à l'hôtel? Gilles lui dit, non, c'est des gens qui nous ont hébergés. Auguste lui dit, il faudra les remercier, les faire venir. Gilles lui dit, je doute qu'ils veuillent venir. Gilles a été invité pour dîner. Auguste lui a dit, c'est la moindre des choses. Eric, en fin de soirée, est rentré. Il est surpris de retrouver son frère. Sa grand-mère lui dit, oh, tu vois, il est en fin de retour. Tu dois être content. Eric ne dit rien, mais il est content de retrouver son frère. Il est furieux de voir que ce salaud de Gilles, ce Gilles, qui prend sous sa coupe son frère. Et lui, Eric, ne peut rien dire, parce que ce Gilles est l'ami des Francs Blancs, la famille la plus puissante du monde. Et ce grand-père, qui s'acoquine avec eux, lui, Eric, ne peut rien contre ces gens, ce Gilles. Il se demande pourquoi, alors, pourquoi Gilles est son ami, puisque Gilles est son ami, il ne se défend pas plus contre lui. Est-ce que c'est parce que son frère aime ce qu'il lui fait? Oui, ça doit être ça, parce qu'autrement, ça lui serait facile de l'éliminer, lui. Bien sûr, Frédéric, de temps en temps, a des crises, mais est-ce des crises bien sérieuse. Ses fugues sont pour la plupart, souvent, pour aller avec Gilles, toujours Gilles. Auguste lui demande, à quoi tu penses? Eric lui dit, pourquoi? Auguste lui dit, parce que tu as l'air dans la lune, rêveur. Eric fait, rien. Le soir même, Eric retourne voir son frère. Mais la joie de le revoir l'a empêché d'être trop méchant. Il avait plutôt envie, c'est de lui donner des caresses et de l'embrasser. Carole l'ennuie de plus en plus. Par contre, avec elle, il a plus envie de la battre qu'autre chose. Il n'éprouve aucun plaisir avec elle, sauf celui de lui faire du mal, pour lui prouver qu'il est libre. Malheureusement, elle est crampon. Les jours passent. Et plus le temps passe, plus les deux jeunes gens, pour eux, l'immortalité, l'immoralité devient une chose normale. Depuis leur retour, ils ont l'impression de n'avoir plus de limites à leur forfait. Ils volent pour eux. C'est un jeu d'enfant dans les magasins, chez les gens où ils sont invités. Ils prennent des voitures la nuit pour faire leur course-vol, les yeux bandés. Gilles conduit et Frédéric lui dit ce qu'il faut faire. Des fois, ils emmènent avec eux des auto-stoppeuses. Ils font leur course-vol avec elles. Elles paniquent, crient, hurlent. Il les arrête en banlieue, dans un coin, en plein champ. Ils les font sortir de voiture. Sors d'ici, t'es trop conne. Elle sort de voiture, étourdie, envie de vomir. Elle demande : mais qu'est-ce que je vais faire ? Comment vais-je faire pour rentrer ? Gilles lui dit : tu fais du stop. Et une pipe au kilomètre. Et il la quitte. La voiture file, file. La nuit, et suit une fille dans les rues. Lorsqu'elle rentre dans son lambeau, Ils entrent avec elle. Elle les laisse rentrer parce qu'ils font beau gosse. Et là, il se jette sur elle et la viole. Elle ne peut rien faire contre ces deux garçons. Ils lui mettent la main et lui enfoncent à la bouche un mouchoir. Avant de la lui mettre, Frédéric a craché dedans. Des fois, il se mouche. Un soir, chez Gilles, ils sont en train de dîner dans la salle à manger. Gilles lui dit « Tout ça, ce que nous faisons, c'est bien, mais ce n'est pas très sérieux. Il nous faudrait un bon coup. » Frédéric lui dit « Mon frère ?» Je lui dis « Non, pas tout de suite. » Frédéric lui demande « Pourquoi ?» Gilles lui répond « Ce n'est pas le moment. Plus on attendra, plus ce sera terrible pour lui. » Frédéric lui dit « C'est déjà terrible pour moi. Je sais, mais pense à la jouissance que tu auras. Et lui, ce sera sa fin. » Frédéric demande « Et grand-père, lui aussi ?» Frédéric lui dit « Pourtant, il est devenu bon pour moi. » Je lui dis, la bonté, ce n'est rien. C'est pour les faibles. Et s'il est devenu bon, c'est parce qu'il sent que son temps vient et qu'il risque d'être dépendant et de dépendre de toi. Alors il se dit que si je suis bon avec lui, il sera bon avec moi. La bonté, c'est le chantage des faibles. Et c'est ce qui les fait fort. Et invulnérable. Frédéric lui dit, lui aussi? Oui, tous. Frédéric demandait après, il n'y aura jamais d'après, il y aura toujours des gens éliminés. Les deux garçons sont très recherchés par les familles, parce qu'ils font partie des familles bien. Ils ont très bonnes notes au lycée, sont des modèles pour les autres. Et puis, qui sait pour plus tard, lorsqu'on a une fille à marier, on les invite à des thés, soirées, bals, week-end à la campagne, etc. Gilles et Frédéric y vont, c'est surtout pour rigoler un peu, voler des choses, pour s'amuser, draguer les filles, pour leur faire du mal. Au lieu de les embrasser, il les gifle, leur donne des rendez-vous dans des endroits, une chambre, salle de bain, et l'y enferme. Ceci dans une soirée. Il rigole aussi des gens qu'ils voient, de ce qu'ils disent, de leur tenue, etc. sont même invités chez Gilbert. Invitation suprême. Gilbert fait ses soirées chez lui, pour ne plus déranger sa mère. Mais elle vient tout de même lui donner un petit coup de main. Gilbert, comme vous savez, habite un hôtel. Hôtel particulier dans le Marais qui a appartenu à la marquise de Pompadour. Cet hôtel entièrement rénové par le groupe et qui appartient au groupe, Gilbert en est que le, disons, le gardien. Et pour lui et ses descendants, il peut s'en servir. Mais tout ce qu'il fait dans l'hôtel est aux frais de la société, même l'entretien. Ce qui fait qu'en tant que PDG, il est logé et servi gratuitement. C'est tout bénéfice pour lui. Donc de temps en temps, il organise des soirées. Il faut bien qu'il montre que l'hôtel sert au siège. Dans ces soirées, il invite les membres du groupe et de ses filiales, plus des membres du gouvernement, des artistes, des actionnaires et partenaires. Et bien entendu, pour ne pas s'ennuyer, des amis, comme son grand ami Julien. Julien, un ami fidèle de toujours, l'être le plus aimable, le plus gentil qui soit. Gilbert peut lui demander n'importe quoi, il le fait. Pauvre Julien, qui n'a pas beaucoup de chance avec les filles et reste la plupart du temps seul. Nous vous avons présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.